Du retour de la progressivité fiscale et de la réforme agraire permanente. Venons-en maintenant aux taux et aux barèmes des impôts progressifs permettant de financer l'ensemble. S'agissant des taux d'imposition applicables aux plus hautes successions et aux plus hauts revenus, je propose qu'ils atteignent des niveaux de l'ordre de 60-70% au-delà de 10 fois la moyenne des patrimoines et des revenus, et de l'ordre de 80-90% au-delà de 100 fois la moyenne. Ces niveaux sont conformes à ce qui a été appliqué au XXe siècle dans de nombreux pays pendant des décennies, en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni au cours de la période 1930-1980, et en l'occurrence durant des périodes dont il apparaît aujourd'hui qu'elles ont été parmi les plus dynamiques jamais observées en termes de croissance économique. Dans ces conditions, il paraît raisonnable de les appliquer de nouveau. Ceci marquerait par ailleurs une nette volonté de réduction des inégalités et de rupture avec le riganisme, et pourrait entraîner des effets de recomposition importants concernant la structure du conflit électoral et politique. La partie la plus innovante des barèmes proposés ici, et qui mérite davantage discussion, concerne l'impôt progressif annuel sur la propriété. En pratique, les barèmes appliqués dans l'histoire pour imposer les patrimoines ont été relativement incohérents. Dans le cadre des impôts sur la propriété immobilière, résidentielle et professionnelle, issus du XIXe siècle, de type property tax aux États-Unis ou taxe foncière en France, le taux effectif d'imposition se situe actuellement autour de 1%. Ces taxes, omettant de prendre en compte les actifs financiers, particulièrement importants pour les patrimoines élevés, et les dettes, qui par définition sont proportionnellement plus lourdes parmi les moins riches, il s'agit en réalité d'impôts lourdement régressifs sur le patrimoine, avec des taux réels d'imposition beaucoup plus lourds sur les patrimoines les plus faibles que sur les plus élevés. S'agissant des impôts progressifs sur la fortune, expérimentés dans différents pays au cours du XXe siècle, en particulier en Europe germanique et nordique, ainsi qu'en France au cours des dernières décennies avec l'ISF, les taux varient généralement de 0% pour les patrimoines les plus faibles jusqu'à 2-3% pour les plus élevés. Lors des épisodes de réforme agraire, les taux de prélèvement implicites imposés sur les plus grands domaines étaient parfois autrement plus élevés. Par exemple, si l'on décide que toutes les terres au-delà de 500 hectares doivent être redistribuées aux paysans sans terre, alors cela correspond à un taux effectif d'imposition de 75% pour un domaine de 2000 hectares. Dans le cas théorique d'un seul individu détenant à lui seul toute l'Irlande, ou bien d'une personne possédant une substance ou une formule d'une valeur infinie pour le reste de l'humanité, il paraît clair que le bon sens conduirait à un taux de redistribution proche de 100%. Dans le cadre des divers prélèvements exceptionnels sur le capital immobilier et financier pratiqués à l'issue du Second Conflit mondial, des taux atteignant 40-50% et parfois davantage furent appliqués au plus haut patrimoine. Le barème indiqué sur le tableau 17.1 pour l'impôt progressif sur la propriété tente de combiner ces différentes expériences de façon cohérente. Le taux d'imposition est de 0,1% pour les patrimoines inférieurs au patrimoine moyen, avant de s'élever graduellement à 1% au niveau de 2 fois le patrimoine moyen, 10% au niveau de 100 fois le patrimoine moyen, 60% au niveau de 1000 fois le patrimoine moyen, soit 200 millions d'euros si le patrimoine moyen par adulte est de 200 000 euros, et 90% au niveau de 10 000 fois le patrimoine moyen, soit 2 milliards d'euros. Par comparaison à l'actuel système d'imposition proportionnelle de la propriété immobilière en place dans de nombreux pays, ce barème entraînerait une réduction fiscale substantielle pour les 80-90% de la population les moins riches en patrimoine et faciliterait donc leur accession à la propriété. À l'inverse, l'alourdissement serait conséquent pour les plus hauts patrimoines. Pour les milliardaires, le taux de 90% reviendrait à diviser immédiatement leur patrimoine par 10 et à ramener la part des milliardaires dans le patrimoine total à un niveau inférieur à ce qu'elle était au cours de la période 1950-1980. J'insiste de nouveau sur le fait que les taux indiqués ici n'ont qu'une valeur illustrative et devraient faire l'objet d'une délibération collective et d'une expérimentation approfondie. En particulier, L'une des vertus de l'impôt progressif sur la propriété est de promouvoir la transparence sur les patrimoines. Autrement dit, la mise en place d'un tel impôt, éventuellement avec des taux plus modérés que ceux indiqués ici, permettra de produire davantage d'informations sur les rythmes de progression des différents niveaux de patrimoine et d'ajuster les taux appliqués par la suite en fonction des objectifs de déconcentration de la propriété que se donne la société. Les éléments disponibles à ce stade indiquent que les plus grandes fortunes ont progressé à des rythmes moyens de l'ordre de 6-8% par an depuis les années 1980-1990. Cela suggère que des taux d'imposition d'au moins 5-10% sont nécessaires pour réduire la concentration de la propriété au sommet de la répartition, ou tout du moins pour la stabiliser. On notera également qu'il n'est pas strictement nécessaire, sauf urgence particulière, d'appliquer en une seule fois des taux de l'ordre de 60 ou 90% sur les plus hauts patrimoines. Des taux de 10% ou 20% peuvent avoir le même effet en quelques années. Les taux indiqués sur le tableau 17.1 et que je développe ici visent avant tout à indiquer l'étendue des possibles et à stimuler la discussion. Précisons enfin qu'il est essentiel en tout état de cause que l'impôt progressif sur la propriété et sur l'héritage envisagé ici porte sur le patrimoine global, c'est-à-dire sur la valeur totale de l'ensemble des actifs immobiliers, professionnels et financiers, nets de dettes, détenus ou reçus par une personne donnée, sans exception. De la même façon, l'impôt progressif sur le revenu doit porter sur le revenu global, c'est-à-dire sur l'ensemble des revenus du travail, salaire, pension de retraite, revenus d'activité des non-salariés, etc., et du capital, dividendes, intérêts, profits, loyers, etc. Les expériences historiques disponibles montrent en effet que, si l'on ne traite pas les diverses formes d'actifs et de revenus de la même façon dans le cadre de la mise en place de la progressivité fiscale, alors les comportements d'optimisation fiscale et les perceptions d'injustice horizontale risquent fort de miner gravement le fonctionnement du système, aussi bien sur le plan technique que sur celui de son acceptabilité démocratique. En particulier, cela n'aurait guère de sens d'exempter de l'impôt sur la propriété ou sur l'héritage telle ou telle catégorie d'actifs, car cela conduirait à un contournement de l'impôt. En particulier, l'idée selon laquelle il faudrait exonérer le capital productif se heurte au fait que le capital est toujours productif d'une façon ou d'une autre, y compris bien sûr l'immobilier résidentiel, qui produit des services de logement, c'est-à-dire la possibilité de vivre sous un toit, ce qui est au moins aussi utile que le fait de disposer de bureaux ou d'entrepôts pour produire d'autres biens et services, de même d'ailleurs que le travail. Si l'on commence à exempter d'impôts le capital ou le travail au motif qu'il serait productif, on risque fort de se retrouver très vite sans aucun impôt. Vers la propriété sociale et temporaire. Récapitulons. Le modèle de socialisme participatif proposé ici repose sur deux piliers essentiels visant à dépasser le système actuel de propriété privée. D'une part, par la propriété sociale et le partage des droits de vote dans les entreprises, et d'autre part, par la propriété temporaire et la circulation du capital. En combinant les deux éléments, on aboutit à un système de propriété qui n'a plus grand-chose à voir avec le capitalisme privé tel qu'on le connaît actuellement, et qui constitue un réel dépassement du capitalisme. Ces propositions peuvent sembler radicales. Je souligne toutefois le fait qu'elles se situent en réalité dans la lignée d'une évolution qui a débuté à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, aussi bien pour ce qui concerne le partage du pouvoir dans les entreprises que la montée en puissance de l'impôt progressif. Ce mouvement s'est interrompu au cours des dernières décennies, d'une part parce que la social-démocratie n'a pas suffisamment renouvelé et internationalisé son projet, et d'autre part parce que l'échec dramatique du communisme de type soviétique a conduit à lancer le monde dans une phase de dérégulation sans limite et de renoncement à toute ambition égalitaire à partir des années 1980-1990, basculement dont la Russie et ses oligarques constituent sans nul doute l'illustration la plus extrême. L'habileté avec laquelle les promoteurs de la révolution conservatrice et néo-propriétariste des années 1980 et les tenants de la ligne nationaliste et anti-immigrée ont réussi à occuper le vide politico-idéologique a fait le reste. depuis la crise de 2008. On voit toutefois les prémices d'un nouveau mouvement se mettre en place, avec une multiplication des débats et des propositions concernant de nouvelles formes de partage du pouvoir et d'impôts progressifs. L'idéologie néopropriétariste reste certes très vivace, de même que la tentation du repli nativiste, mais une évolution est nettement perceptible. Les éléments indiqués ici ne font que s'inscrire dans ce mouvement, tout en tentant de le replacer dans une perspective historique plus générale. En particulier, la notion de propriété temporaire incarnée par l'impôt progressif sur la propriété décrit plus haut ne constitue finalement qu'un prolongement des formes de propriété temporaire impliquées par les impôts progressifs sur les successions et sur les revenus déjà expérimentés au XXe siècle. De façon générale, ces dispositifs institutionnels reposent sur une vision de la propriété comme relation sociale et qui doit par conséquent être régulée comme telle. L'idée selon laquelle il existerait une propriété strictement privée et des formes de droit naturel et inviolable de certaines personnes sur certains biens ne résiste guère à l'analyse. L'accumulation de biens est toujours le fruit d'un processus social qui dépend notamment des infrastructures publiques, en particulier du système légal, fiscal et éducatif, de la division du travail social et des connaissances accumulées par l'humanité depuis des siècles. Dans ces conditions, il est parfaitement logique que les personnes ayant accumulé des détentions patrimoniales importantes en rendent une fraction chaque année à la communauté et qu'ainsi la propriété devienne temporaire et non plus permanente. Au fond, le seul argument qui s'oppose vraiment à cette logique est celui de la boîte de Pandore, selon lequel la remise en cause des droits de propriété privée déboucherait inévitablement sur le chaos généralisé et qu'il vaudrait mieux par conséquent ne jamais ouvrir cette boîte. Mais cet argument conservateur a été définitivement battu en brèche par l'expérience du XXe siècle qui a démontré qu'une très forte progressivité fiscale non seulement pouvait aller de pair avec une croissance rapide, mais qu'il s'agissait d'un élément constitutif d'une stratégie de développement fondée sur une relative égalité socio-éducative. Les expériences historiques disponibles livrent des pistes d'expérimentation possibles et non des solutions toutes faites. C'est une vérité sur laquelle il faut insister. S'agissant de la question du lien entre capital, pouvoir et droit de vote dans les entreprises, comme de celle de la progressivité fiscale et de la circulation permanente de la propriété, seules des expérimentations concrètes réussies permettront de faire évoluer de façon décisive les représentations et les réalités, ainsi qu'il en a toujours été dans l'histoire des régimes inégalitaires. De la transparence patrimoniale dans un seul pays. Idéalement, le retour de la progressivité fiscale et le développement de l'impôt progressif sur la propriété devraient se faire dans le cadre de la plus grande coopération internationale possible. La meilleure solution serait la constitution d'un cadastre financier public permettant aux États et aux administrations fiscales d'échanger toutes les informations nécessaires sur les détenteurs ultimes des actifs financiers émis dans les différents pays. De tels registres existent déjà, mais ils sont pour une large part à la main d'intermédiaires privés. Il suffirait pourtant que les États qui le souhaitent, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis et dans les autres parties du monde, changent les termes des accords qui les lient pour mettre en place un registre public qui ne poserait aucun problème technique. Je reviendrai plus loin sur la façon dont on peut envisager la transformation du cadre légal organisant la mondialisation et la réécriture des traités régulant les échanges financiers et commerciaux afin de développer une forme de social fédéralisme au niveau mondial. À ce stade, je veux simplement souligner que les États disposent de marges de manœuvre importantes pour avancer dans la direction de la réduction des inégalités et d'une propriété juste sans attendre que de telles coopérations internationales se mettent en place. Cela est évident pour des États de grande taille comme les États-Unis ou encore la Chine, et demain l'Inde. Dans le cas des États-Unis, il ne fait aucun doute que le gouvernement fédéral, s'il en a la volonté politique, a parfaitement les moyens de faire respecter ses décisions en matière fiscale. Nous avons déjà évoqué les menaces de sanctions contre les banques suisses en 2010 qui ont immédiatement conduit à un changement de la législation helvétique. Ceci pourrait être fait de façon beaucoup plus systématique. Il faut également rappeler que les États-Unis appliquent de larges pans de leur législation fiscale à toutes les personnes détenant la nationalité états-unienne, où qu'elles résident dans le monde. Autrement dit, les personnes souhaitant échapper à cette législation doivent renoncer à cette nationalité, voire, dans certains cas, renoncer à avoir des activités économiques aux États-Unis, ou même à utiliser le dollar, directement ou indirectement, où que ce soit sur la planète, ce qui peut devenir très coûteux pour les individus ou les entreprises en question. Dans les débats en cours sur l'introduction d'un impôt fédéral sur la fortune aux États-Unis, il est intéressant de noter que ces propositions s'accompagnent de mesures radicales permettant d'appliquer rigoureusement ce type de mesures, par exemple avec une « exit tax » égale à 40% de la valeur des actifs des personnes qui choisiraient de renoncer à la nationalité états-unienne et de relocaliser leur patrimoine dans d'autres parties du monde. Pour résumer, la question de savoir si les États-Unis vont ou non mettre en place une fiscalité plus progressive, pouvant aller jusqu'au système d'impôt progressif sur la propriété et de circulation du capital décrit plus haut, est purement politique et idéologique. Elle ne pose aucun problème technique. Il est également important de faire remarquer que les États de plus faible taille, par exemple la France, s'ils ont évidemment plus à gagner du développement de coopération internationale, disposent eux aussi de très larges marges de manœuvre pour mettre en place leur propre politique au niveau national. Cela vaut non seulement pour la mise en place de nouvelles règles concernant le partage du pouvoir et des droits de vote dans les entreprises, ainsi que le montrent des pays comme l'Allemagne ou la Suède, qui appliquent de telles règles depuis des décennies sans attendre leur lente diffusion internationale, mais également pour ce qui concerne l'impôt progressif sur la propriété et la réduction des inégalités de revenus et de patrimoine. Ceci est important, en particulier car cela va à l'encontre du discours fataliste tenu par de nombreux acteurs au cours des dernières décennies pour imposer l'idée que la mondialisation obligerait à une politique unique, celle qu'il préconise, discours qui a largement contribué à l'abandon de toute perspective de réforme ambitieuse du système économique et au mouvement de repli nationaliste et nativiste. En pratique, on observe par exemple que les recettes de l'impôt sur la fortune, ISF, ont été multipliées par plus de 4 entre 1990 et 2018, c'est-à-dire plus de deux fois plus vite que le PIB, ce qui montre assez clairement qu'il est possible d'appliquer un tel impôt dans un seul pays tout en bénéficiant de rentrées fiscales en forte hausse. Encore faut-il préciser que l'administration de cet impôt a toujours été gravement défaillante. En particulier, le contrôle fiscal a toujours été notoirement insuffisant, et les gouvernements successifs ont fait le choix de laisser les individus déclarer eux-mêmes leurs actifs, sans vérification systématique, alors qu'il aurait été aisé d'instituer un système de déclaration pré-rempli de patrimoine à partir des informations transmises par les banques et institutions financières au sujet des actifs financiers, et par le cadastre immobilier déjà existant au sujet des actifs immobiliers mise à jour à partir des valeurs des dernières transactions, comme cela se fait de façon routinière pour les déclarations de revenus. Cela aurait permis, et pourrait permettre à l'avenir, une progression des recettes fiscales de l'ISF encore plus forte que celle observée. De façon plus générale, rien n'interdit à un État de taille moyenne, comme la France, de mettre en place une beaucoup plus grande transparence patrimoniale, y compris en l'absence de toute coopération internationale. Cela est évident pour tous les actifs immobiliers basés sur un territoire national donné, qu'il s'agisse d'ailleurs de logements résidentiels ou d'actifs professionnels, bureaux, usines, entrepôts, boutiques, restaurants, etc., et plus généralement pour toutes les entreprises ayant une activité ou un intérêt économique sur le territoire en question. Prenons le cas de la taxe foncière en France. De même que la property tax aux États-Unis ou les impôts similaires dans les autres pays, cette taxe est due par les détenteurs de biens immobiliers, résidentiels ou professionnels, situés sur le territoire français. Il est important de préciser que cette taxe est due par tous les propriétaires de ces biens, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, et qu'ils soient eux-mêmes basés en France ou à l'étranger, ou détenus par des personnes basées en France ou à l'étranger. Actuellement, le montant de la taxe foncière ne dépend pas de l'identité du propriétaire et de l'ampleur de ses détentions patrimoniales, puisqu'il s'agit d'un impôt strictement proportionnel. Si bien que l'administration n'a besoin d'aucune information supplémentaire pour établir l'impôt, autre que le nom de la personne ou de la structure à laquelle il convient de facturer l'impôt. Mais l'administration pourrait très bien exiger des propriétaires de ces biens, lorsqu'il s'agit d'entreprises ou de structures légales de diverses natures, holdings, fondations, etc., qu'ils lui transmettent les identités des actionnaires et les parts correspondantes, faute de quoi des sanctions dissuasives seraient appliquées. De cette façon, en utilisant également les informations sur les portefeuilles financiers transmises par les banques et institutions financières, l'administration fiscale française, comme celle des autres pays, pourrait parfaitement transformer la taxe foncière en un impôt progressif sur le patrimoine net individuel, en prenant en compte automatiquement l'ensemble des biens résidentiels ou professionnels détenus en France, directement ou par l'intermédiaire d'actions, de parts ou d'actifs financiers de diverses natures. Plus généralement, la puissance publique pourrait exiger de toutes les entreprises ayant une activité ou un intérêt en France de transmettre les informations sur leurs détenteurs dans la mesure où l'information est utile pour appliquer la législation fiscale qu'elle a choisi d'adopter. Cette transparence patrimoniale permettrait de mettre en place un impôt progressif et unifié sur la propriété, issu de l'ancienne taxe foncière et de l'ancien impôt sur la fortune, avec, à la clé, une forte diminution d'impôts pour tous ceux qui détiennent des patrimoines modestes et moyens ou qui sont en voie d'accession à la propriété et une augmentation pour ceux qui détiennent déjà des patrimoines importants. Par exemple, une personne détenant une maison ou un bien professionnel d'une valeur de 300 000 euros mais avec une dette de 250 000 euros serait imposée sur la base d'un patrimoine net de seulement 50 000 euros. Ce qui, avec un barème progressif du type de celui indiqué sur le tableau 17.1, conduirait à un impôt sur la propriété quasi nul, et donc à une forte baisse d'impôt par rapport à l'actuelle taxe foncière. À l'inverse, une autre personne détenant un bien d'une même valeur de 300 000 euros, ainsi qu'un portefeuille financier de 2 millions d'euros, et qui actuellement paie la même taxe foncière que la première, ce qui en dit long sur l'absurdité, l'injustice et l'archaïsme du système fiscal en vigueur, directement issu du début du XIXe siècle, ferait face à une augmentation d'impôt sur la propriété. Avec un tel système, la seule stratégie d'évitement possible pour les détenteurs de biens résidentiels ou professionnels basés en France serait de quitter le territoire et de vendre les actifs correspondants. Face à cela, des mesures de type « exit tax » pourrait être appliquée. En tout état de cause, il faut souligner que cette stratégie d'évitement impliquerait de vendre les biens, logements et entreprises, de sorte que les prix de ces derniers baisseraient et pourraient ainsi être achetés par tous ceux qui resteraient dans le pays, qui a priori seraient les plus nombreux, et parmi eux des millions de personnes fort compétentes. À la réflexion, cette possible baisse des prix serait une excellente chose, au moins jusqu'à un certain point. En France, comme dans les autres pays, la flambée du prix des actifs, notamment dans les grandes métropoles, est en partie alimentée par des propriétaires français et étrangers accumulant des biens dont ils ne savent que faire et qui pourraient utilement être transmis à des détenteurs moins riches. Le point important est qu'un pays comme la France pourrait parfaitement imposer ces nouvelles obligations de transparence aux entreprises et autres entités et personnes morales détenant des biens sur son territoire, sans que ceci nécessite l'accord d'autres pays.